Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous êtes satisfait de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec Dieu? Vous pourriez dire quelque chose, si vous deviez répondre. Hein? Si vous allez chez le docteur, si vous posez la question, est-ce que votre corps est en bonne santé? Vous allez dire, tiens, mon corps, ben oui, non, voilà. Mais votre âme est-elle en bonne santé? Alors ce soir, nous allons travailler à cela. Comment Dieu peut-il restaurer notre âme? Nous allons voir d'abord dans le psaume 107 un texte où leur âme était en souffrance. Et vous verrez tout à l'heure dans une partie de la prédication que souvent dans la Bible, on voit que l'âme peut être affligée, malheureuse, etc. etc. Dans le psaume 107, on va lire du verset 4 et du verset 5. Voilà, psaume 107, verset 4. Vous y êtes ? Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Leur âme était languissante. Votre corps, je ne sais pas, est-ce que vous appréciez la clim, par exemple ? Est-ce que c'est bien la clim ? Hein, c'est bien. Dans notre corps, il apprécie certaines choses. Peut-être que tout à l'heure, en rentrant, vous vous êtes mis une boisson au frais, un petit panaché au frais. Est-ce qu'on pense à son corps, sérieusement? Oui. Eh bien, c'est bien de penser à son corps, mais je vous assure que c'est encore mieux de penser à son âme. Notre âme, elle n'est pas à nous. Est-ce qu'elle nous appartient, notre âme? Et non. Notre âme ne nous appartient pas. Votre voiture vous appartient? Vous avez une voiture? Oui, elle est à vous. Mais votre âme ne vous appartient pas. Alors dans Luc, on voit bien cette affaire. Un jour, quelqu'un a posé une question, pensant que Jésus, il était là pour répondre à toutes nos attentes. Jésus n'est pas là que pour nos intérêts personnels. Cet homme, il a dû le comprendre. Luc chapitre 12, verset 13. C'est surtout pour la question du verset 20 qui nous intéresse. Mais on va lire l'histoire en entier pour ceux qui découvrent l'évangile. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, « dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Vous avez la preuve au travers de cette parole de Jésus que notre âme, votre âme, ne nous appartient pas. Et pourtant, il faut bien s'en occuper. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, j'ai fait allusion à ce texte il y a 3 ou 4 semaines. Il y a un verset moi, qui m'a beaucoup interpellé. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Cette parole, comme vous avez dû certainement le vivre, avec d'autres paroles, il n'y a pas des paroles parfois qui vous ont beaucoup interpellé. Voilà. Et moi, c'est un verset qui m'a énormément interpellé. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Voilà, ce sont ces mots qui m'ont touché. « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Donc si vous avez des petits-enfants, eh bien, vous avez la joie eh bien, de leur enseigner la parole de Dieu. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Moi, c'est une parole qui m'a absolument percuté pour que je comprenne peut-être mieux l'enseignement du Notre Père quand Jésus dit, quand vous priez, dites « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Voyez, on parle du corps, et c'est très bien de faire le parallèle, combien nous aimons nous occuper de notre corps. En ce moment, voyez, il fait chaud, comme on aime la fraîcheur, comme on aime les boissons fraîches, se doucher davantage. Pourquoi ? Parce qu'on aime bichonner notre corps. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne s'occupent pas bien de leur âme. On le voit dans l'affaire de cet homme qui est intéressé par un héritage, etc. Ça c'est important, mais qui ne pensait pas du tout que Dieu pouvait lui redemander son âme dans les jours qui suivaient. Donc, nous avons besoin de nous occuper de notre âme chaque jour de notre vie. C'est pour ça que je vous posais la question, que pensez-vous de votre relation avec le Seigneur ? Voilà. Vous pourriez écrire en 10 lignes, quelle est votre relation avec Dieu ? Est-ce que vous pourriez écrire quelque chose sur votre relation avec Dieu ? Il y a des gens, ils sont incapables d'écrire quoi que ce soit sur leur relation avec Dieu. Ils pourraient écrire sur leur Saint-Étienne, le docteur m'a dit ça, oui, il faut que je fasse attention à mon cholestérol, il m'a dit de faire très attention à ne pas manger de charcuterie, parce que mon cholestérol risque d'augmenter. Il y a des gens, ils peuvent parler de leur corps, ils peuvent parler très bien de leur corps, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais vous leur dites, et votre âme ? Ils vous regardent, mon âme ? Ah, presque, il y a des gens qui vivent comme s'ils ne savaient même pas qu'ils avaient une âme. C'est pour vous dire le danger dans lequel se trouvent les gens. Ils ne pensent même pas au fait qu'ils ont en eux une âme qui va leur être redemandée et ils ne s'en occupent absolument pas. Veille attentivement sur ton âme tous les dimanches. C'est ça que vous avez lu avec moi ? Il vous faut m'aider parce que quand même c'est... Hein ? Veille sur ton âme les jours où tu as le temps. Est-ce qu'il y a des jours où vous avez le temps plus que d'autres ? Oui, il y a des jours où on a plus de temps que d'autres. Comment ? Oui. Les jours de vacances, tiens, les jours de vacances. Est-ce que c'est écrit, mais avec vous, veille sur ton âme quand tu es en vacances. Tu as le temps, alors veille sur ton âme. Non. Veille sur ton âme les jours faciles, les jours difficiles. Est-ce qu'il y a des jours faciles ? Est-ce qu'il y a des jours difficiles ? Ben oui. La Bible parle des mauvais jours, oui, faut pas se leurrer. Il y a des jours faciles, oui, il y a des jours plus faciles. Il y a des jours où il faut combattre, c'est pas évident. La Bible est catégorique, veille sur ton âme tous les jours de ta vie. Pourquoi ? Il y a deux choses. Vous êtes dans Deutéronome chapitre 4, verset 9. Il y a deux choses qui peuvent se passer quand on ne veille pas sur son âme. Deux choses. De peur que tu n'oublies. Vous savez, Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Il sait très bien comment on fonctionne. Et des fois, on se pose la question, mais ce n'est pas possible, ce gars qui était chrétien, qui prêchait même, il a oublié. Est-ce qu'on peut oublier ? Eh bien oui, vous l'avez avec moi, vous pouvez oublier les choses que vous avez apprises. Voilà. De peur que tu n'oublies, ça va plus loin, puisqu'il est dit, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Voyez, et on n'est pas meilleur que les autres. On ne dit pas, non, 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 moi j'ai de la mémoire, je retiens tout. Les autres, oui, mais moi, écoutez. Dieu s'adresse à tous les hommes. Dieu sait très bien qu'on peut oublier et que les choses peuvent sortir de notre cœur. Dieu sait que vous soyez chrétien de très très longue date, que vous découvriez l'Évangile. Dieu sait que dans la vie chrétienne, il faut s'occuper de son âme tous les jours de la vie. Ça fait partie des vérités. Vous savez, Jésus est appelé le véritable. Vous aimez entendre la vérité ? Vous aimez ? Oui. Vous aimez la vérité ? Eh bien, voyez, ça fait partie des choses qu'on a vraiment besoin d'entendre. Il y a des gens, ils n'aiment pas entendre la vérité. Il y a des gens, ils préféreraient entendre, écoutez, occupez-vous de votre âme le dimanche matin, prenez 2 heures pour votre culte personnel, voilà, vous êtes avec les frères, avec les sœurs, c'est bien, c'est super sympa, voilà, ça suffit. Ça peut être enseigné, ça, mais moi, je vais vous dire, ceux qui ne s'occupent de leur âme que le dimanche matin, ces choses-là de Dieu sortiront de leur cœur. C'est oui, quelqu'un pourrait dire, mais comment vous le savez ? Est-ce que parce que c'est écrit, si on ne veille pas sur son âme tous les jours de notre vie, eh bien on prend le risque que ces choses s'oublient et que ces choses sortent de notre cœur. Que, je le répète, que vous soyez chrétien depuis très 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 longtemps ou que vous découvriez l'Évangile, nous avons tous besoin d'entendre cette vérité et de réfléchir à ces choses. Parce que ça a été écrit dans ce but. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissé sa parole ? Pour qu'on la lise une fois ? Est-ce qu'il est dit à la fin de la Bible, bon, t'as lu la Bible une fois, bon, c'est bon, t'as compris ? Non, il nous est conseillé de le faire le plus régulièrement possible. Pourquoi ? Pour qu'on puisse réfléchir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Votre présence me prouve que vous voulez nourrir votre âme. Vous avez une âme, et comme on l'a lu, cette âme un jour vous sera redemandée. Est-ce que vous y pensez des fois ce jour où Dieu vous redemandera votre âme ? Vous y pensez des fois ? Vous qui êtes jeune, est-ce que vous y pensez? Ou est-ce que vous dites, oh, mais moi, j'ai que 25 ans, moi, j'ai le temps. Oh, si je meurs, ils ont dit, les spécialistes, ils ont dit qu'on allait vivre jusqu'à 100 ans. Oh, moi, il me reste 75 ans à vivre. Vous parlez comme ça ou vous dites, même si je suis en très bonne santé, Dieu peut me reprendre demain. Est-ce que vous pensez comme ça? Eh oui, c'est ça. En tous les cas, le texte est clair. Lorsqu'un chrétien ne veille pas sur son âme, chaque jour, sans qu'il ne s'en rende compte, son âme dépérit. Et si vous lisez bien le psaume 107, vous le vérifierez parce que c'est un psaume long qui indique ce qui se passe lorsqu'on ne veille pas sur son âme. Est-ce que vous priez pour que Dieu vous parle? Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, je te parle, parle-moi Seigneur, parle-moi au travers de ta parole, parle-moi au travers des frères qui apportent ta parole à l'église, parle-moi. Eh bien, ce soir, moi je crois que le Seigneur est capable de nous parler par ce texte, qu'un chrétien doit prier chaque jour pour entretenir une véritable communion avec Dieu. On ne peut pas prier comme ça, dire juste, oh, je prie quand j'ai le temps, moi je prie pour moi, qu'est-ce que vous me demandez de prier avec, à l'église? Est-ce que c'est biblique de prier à l'église avec des frères et sœurs? De prier les uns pour les autres? Oui, c'est biblique. Est-ce que c'est biblique prier chacun pour soi? Non, c'est pas biblique. Prier seul à la maison, oui. Mais chacun pour soi. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh, moi, je fais comme je veux. Monsieur Gouff, vous n'avez pas de directive à me donner. Il y a des gens, vous voyez, ils imaginent avoir de la volonté et avoir du caractère. Mais tout ça, c'est bien joli. Mais en tous les cas, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et si vous aimez la solitude, c'est très, très bien. Mais je crois que nous devons aussi aimer à nous retrouver ensemble parce que nous sommes une famille et nous devons prier ensemble et aimer nous retrouver pour combattre le bon combat. Alors, quelqu'un qui prie de moins en moins, est-ce que cette parole n'est pas pour lui ce soir? Peut-être que vous êtes dans ce piège et que vous dites, oh, ben moi je prie de moins en moins. Oui, cette parole, elle est pour moi. Oui, ce soir, j'ai besoin d'entendre cette parole pour réapprendre à prier davantage. Qu'est-ce que vous en faites de cette parole ce soir? Parce qu'en fin de compte, on pourrait arrêter parfois la prédication et poser une question par rapport à un verset biblique. Qu'est-ce que vous faites de cette instruction? Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous diriez, vous, à quelqu'un qui vous dit, mais c'est vrai, il faut lire la Bible chaque jour, il faut veiller attentivement. C'est pas lire la Bible comme ça, comme ça, juste un peu. Veille attentivement. Ça vous rassure? Ça vous énerve? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà. Pour commencer déjà, Seigneur, c'est toi qui le dis? C'est sérieux. Voilà à quoi on reconnaît les chrétiens qui ont une vraie piété. C'est Dieu qui l'a dit, ça ne se discute pas. Seigneur, tu l'as dit, je veux le prendre avec sérieux. Le psaume 23, j'en ai souvent parlé, parce que c'est le psaume que beaucoup de chrétiens disent, oh, c'est mon psaume préféré. Les gens, ils sont là, souvent, oh, c'est le psaume que je préfère, je le lis, je le connais par cœur. Ah bon? Vous le connaissez par cœur? Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui le connaissent. Comme on parlait tout à l'heure, Jérémie nous parlait des cantiques qui sont beaux. D'ailleurs, le cantique où il faisait allusion qu'on pouvait chanter un cantique pour la mélodie. C'est vrai qu'il y a des psaumes qui sont beaux parce que c'est comme un poème qui est bien écrit. Le psaume 23 est un beau poème qui est très, très bien écrit. D'ailleurs, il est cité par les païens comme étant un poème. Mais ce n'est pas un poème. C'est une expérience de quelqu'un qui connaît Dieu, qui vit avec Dieu, qui prie, qui loue. Le psaume 23, c'est vraiment un homme qui connaît Dieu. Il le connaît, il a appris à le connaître. L'Éternel est mon berger. Mais le plus important dans le psaume 23, c'est quoi pour vous? Alors, on va lire le verset 3, le verset 7 et 8. Eh bien, Jérémie les ajoutera. Psaume 23, verset 3. Psaume 23, il y a quatre mots qui font le cœur de ce psaume. Parce que personne ne peut s'approprier ce psaume, sérieusement, personne ne peut se l'approprier, s'il ne vit pas les quatre premiers mots du psaume du verset 3. C'est important, c'est comme ça qu'on apprend à étudier la Bible. C'est ça, veiller attentivement. Veille attentivement. Eh bien voilà, je vous explique comment il faut faire. Veille attentivement. Le plus important dans le psaume 23, c'est les quatre premiers mots du verset 3. Il restaure mon âme. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie avec Dieu, pouvoir, parce que le lire ou le chanter, comme il restaure mon âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez dans la Bible tous les textes, comme on a lu dans le psaume 107, leur âme était languissante. C'était le peuple de Dieu. Ça fait quand même mal au cœur. Leur âme était languissante. Que de chrétiens, d'ailleurs, en sont là. Climatisation ou pas, frigo plein ou pas, boisson fraîche ou pas. Leur âme, leur corps, non. Mais leur âme est languissante. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de vivre ce qui est écrit, il restaure mon âme. Parce que chanter un cantique, comme on l'a bien dit tout à l'heure, chanter un cantique, voilà, pour la mélodie, c'est bien, mais lire la Bible juste pour la poésie, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ça, c'est la preuve d'un manque de sérieux. Il restaure mon âme. Si Dieu ne restaure pas mon âme, le psaume 23, il ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire. On peut dire, oui, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est beau tout ça. Il me dirige près des eaux paisibles. Moi, j'ai écouté des cantiques sur le psaume 23, je ne sais pas combien il y en a. Moi, j'en ai écouté des dizaines. On ne le chante pas ici. Mais on en a plusieurs, de très, très beaux cantiques sur le psaume 23. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut même verser une petite larmette de temps en temps. Si la parole de Dieu n'est pas vécu au niveau du verset 3, « Il restaure mon âme », ça ne sert strictement à rien. Et on ne peut pas dire qu'on veille attentivement sur notre âme si on ne laisse pas tous les jours au soin à Dieu de nous parler. C'est David qui disait « Il restaure mon âme ». La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. On l'a lu dans le psaume 107. « Leur âme était languissante. Comment va votre âme ?» Comment va votre âme ? Si vous deviez ce soir, dit voilà, mon âme, eh bien, dans le psaume 116, vous avez dit quoi ? Qu'elle était languissante ? Eh bien, ouais. David, il veillait sur l'état de son âme. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ce soir ? Pourquoi vous êtes venu ce soir ? Tiens donc, pourquoi vous êtes venu ? Pour servir Dieu, peut-être ? Moi, je sais que je suis venu. Bon, franchement, je sais que je vais prêcher, mais franchement, moi, je suis venu pour prier. Franchement, je peux vous dire que ce soir, quand je suis venu, je disais, voilà, tu vas aller prier, parce que l'église est une maison de prière. Moi, je suis venu prier. Vous voyez, en tant que chrétien, je ne parle pas en tant que pasteur. En tant que pasteur, je dois prêcher. Bon, mais ça, c'est évident. Mais je veux dire, en vérité, moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis venu prier. Parce que j'avais à cœur de prier pour nos familles, pour les enfants perdus, pour les fils prodigues, etc. Et c'est important de savoir, mais pourquoi je suis venu ce soir dans la maison du Seigneur ? Comment va mon âme ? La meilleure façon de parler d'une âme, c'est peut-être de faire la comparaison avec une maison. Une maison, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit régulièrement restaurée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Une maison, est-ce qu'il faut la restaurer de temps en temps ? Eh oui, il faut la restaurer. La maison, est-ce que vous occupez de votre maison ? Vous avez une maison, est-ce que vous vous en occupez ? Vous aimez qu'elle soit belle, qu'elle soit propre, qu'elle soit entretenue ? Est-ce que c'est important pour vous ? Ou est-ce que moi, la maison, moi je suis spirituel, moi. La baraque, c'est rien du tout. Si elle s'écroule, c'est pas grave. Moi, j'ai entendu de ces trucs bêtes. Oui. Je crois que quelqu'un qui a une maison ou un appartement, eh bien, il y fait attention. Moi, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est important, que moi, je sais que si j'ai besoin que les choses soient propres, que ma maison soit propre, etc. On s'occupe de sa maison, on s'occupe de son appartement, on s'occupe de sa voiture. Il y a des gens qui s'occupaient de leur âme. Comme s'ils s'occupent de leur voiture, je peux vous dire qu'ils seraient spirituels. Mais ça fait quand même pitié, des gens qui s'occupent plus de leur voiture que de leur âme. Il y a des gens, si la voiture a une rayure, c'est la catastrophe, ça frise la dépression. Mais si leur âme est languissante, ils disent... Oui, mais je vous assure que c'est vrai. Et c'est quand même dommage de prendre soin autant des choses matérielles, de ne pas être capable de prendre soin de son âme. Le corps, dès qu'il y a un petit truc, il y a des gens... Ouh là, vite, il faut que j'aille voir chez le docteur. Ou j'ai un petit bobo là. Il y a des gens, dès qu'ils ont un petit truc, le lendemain, ils sont chez le docteur. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est bien ou c'est pas bien ? Vous avez une bonne mutuelle ? Non mais, c'est quand même une question. C'est vrai ou est-ce que vous connaissez pas des gens ? Dès qu'il y a un petit truc, une heure après, ils sont chez le docteur. Qu'est-ce qu'ils font penser ? Bon, ben, on n'a rien à dire après tout. Hein ? J'espère qu'ils ont tous une bonne mutuelle surtout. Hein ? Mais là, la communion avec Dieu, combien nous devrions, quand il y a des petits bobos spirituels, de suite quand même réfléchir. Moi, je ne juge pas quelqu'un qui, dès qu'il est un petit peu soucieux de son corps, il a un petit peu mal ici, oh, vite, une radio. Moi, je ne le juge pas. Mais spirituellement, je pense qu'on devrait faire la même chose. Quelqu'un qui est tout le temps en train de râler, de grogner. Vous ne croyez pas que ça nécessite une espèce d'IRM spirituel ? Non ? Sérieusement, vous ne croyez pas que quelqu'un qui est toujours en train de râler, c'est pas un signe que son âme va mal? Non? Moi, je crois que oui. Et il y a des petites choses comme ça qui devraient, on n'a pas jugé, mais qui devraient quand même nous alerter. Vraiment. Parce qu'on a vite fait de se laisser avoir. Pourquoi certains chrétiens ont rétrogradé? Pourquoi certains chrétiens ont rétrogradé? Donc, je vous ai posé tout à l'heure la question, que pensez-vous de votre relation avec Dieu? On peut aller un peu plus précis, que pensez-vous de votre communion avec Dieu? C'est pas la même question, presque, mais elle est quand même un peu plus précise. Est-ce que vous êtes satisfait de votre communion avec le Seigneur? Ou est-ce que vous dites, non, ma communion avec Dieu, il faut que je l'améliore. Je ne suis pas assez satisfait. Il y a des chrétiens, leur communion avec Dieu, c'est... Moi, ce matin, j'étais voir un voisin parce que j'avais besoin d'un outil. Ça fait 5 ans que je suis à Saint-Aurin. J'étais le voir pour s'il n'avait pas une petite disqueuse. Voilà. Et en préparant la prédication cet après-midi, je me disais, j'espère que la relation que j'ai avec Dieu est meilleure que celle que j'ai avec mon voisin. En 5 ans, je ne suis même pas rentré chez lui. Je lui ai demandé un outil, ça a pris 30 secondes. Bonjour, bonsoir, au revoir. Voilà la relation qu'on a avec certains voisins. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Est-ce que ma relation avec Dieu est semblable à la relation que j'ai avec certains de mes voisins? Bonjour, bonsoir et à la prochaine. Est-ce que vous diriez qu'un chrétien qui a une relation comme ça s'occupe de son âme? Non. Il y a des chrétiens, c'est ça? Ils viennent à l'église. Bonjour. Bonjour les frères, ils viennent le dimanche matin, on leur parle, mais quand même votre place dans l'église, hop, j'ai pas besoin. Voilà. Alors on n'a pas à les juger, mais je crois quand même que c'est révélateur de manque de communion avec Dieu. Oui, nous devons veiller sur notre âme, un petit peu comme une maman veille sur son enfant. Déjà, vous avez vu une maman, comment elle aime son enfant, comment elle va veiller sur lui dès qu'il y a un petit bruit, tac, tac. Elle va de suite dans la chambre voir s'il ne se passe pas quelque chose. Eh bien, nous devons veiller sur notre âme. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps particulièrement difficiles, vous le savez. Votre présence, pour moi, me prouve que vous avez ce souci de, pendant les vacances, vous allez dire, non, j'ai besoin d'aller à l'église. Cette âme que tu m'as donnée, je réalise qu'elle ne m'appartient pas. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Vous avez vu le texte qu'on a lu tout à l'heure, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est une des paroles, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir pour m'amener à la conversion. Je ne sais pas comment vous vous êtes converti. De temps en temps, on entend un témoignage qui nous montre comment quelqu'un passe des ténèbres à la lumière. Mais moi, quand j'ai réalisé que mon âme ne m'appartenait pas, ça m'a beaucoup aidé pour que je donne mon cœur à Dieu. Parce que vous savez, quand vous avez 22 ans, vous croyez que tout vous appartient, et puis vous réalisez que ce n'est pas le cas. Et s'il y avait quelqu'un ce soir qui n'est pas encore converti, réfléchissez bien, cette prédication elle est aussi pour vous. Dieu peut vous redemander votre âme. Et cette manière de parler n'est pas du chantage et de la pression. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Faites attention, cette nuit même, Dieu peut vous redemander votre âme. Ça m'est arrivé plusieurs fois, de prêcher, et que les jours d'après, quelques personnes qui étaient présentes sont parties dans l'éternité. Ce qui prouve que ces paroles sont vraiment à propos. Cet homme, il réussissait. Vous avez vu, il avait bâti, il voulait bâtir des hangars pour serrer sa récolte, etc., etc., etc. Il avait réussi en tout, et pourtant, il avait échoué sur l'essentiel. Et j'aimerais savoir, oui, j'aimerais savoir, parce que c'est une question que je me pose chaque jour. Combien, sur des milliers, des dizaines, et même des centaines de milliers de gens qui meurent tous les jours, combien partent sauvés? Moi, je ne sais pas si ça vous préoccupe, mais moi, tous les jours, je prie, Seigneur, tu vois, tous les gens qui vont mourir aujourd'hui, et combien, sur tous ces gens qui vont mourir, combien sont partis sauvés? C'est quand même une question qui nous préoccupe à tous. On ne peut pas ne pas y penser, partir dans l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, on a une chance extraordinaire de pouvoir la dire, Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que vous vous rendez compte de la bénédiction? Cette bénédiction n'existe plus dans l'éternité pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le mauvais riche, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a demandé? Lui qui avait tout à sa disposition, est-ce que vous vous souvenez la prière qu'il a faite? Un petit peu tardive, mais vous rappelez la prière qu'il a faite? Il dit, mais que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. J'en parlais tout à l'heure avec un frère, On peut en déduire, alors ça c'est une déduction, parce que l'interprétation de la parole de Dieu c'est quand même sérieux, mais on peut en déduire qu'en enfer, il n'y a pas d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être, quelqu'un dira, c'est tiré par les cheveux, mais quand même ça tient debout. Vous allez me dire, monsieur Gros, attention, doucement. Oui, mais quand même, vous n'oubliez pas que c'est une parole qui est sortie de la bouche de Jésus, et qui quand même nous fait prendre conscience que quand c'est terminé, c'est vraiment terminé. Et que si Dieu nous demande de veiller sur notre âme, Dieu sait très bien les conséquences qu'il y a de ne pas l'avoir fait. Le mauvais riche, il était habillé de fin lin, ça représente les œuvres, mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Et quand Dieu nous demande de veiller attentivement sur notre âme, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que la vie sur la terre, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans ou plus, bon, c'est rien du tout. Franchement, aux yeux de l'éternité, qu'on vive 20 ans ou 80 ans, est-ce qu'il y a une différence aux yeux de l'éternité? Aucune, absolument aucune. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses. La vie d'un homme, a dit Jésus, ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? La vie d'un homme dépend de sa communion avec le Seigneur. Voilà de quoi vraiment dépend notre vie. Et si ça ne va pas, je ne sais pas ce soir, peut-être quelqu'un dit, mais moi ça ne va pas. Moi ça m'interpelle cette prédication, mais je me rends compte que je suis léger. Je prends soin de mon âme le mardi soir, le dimanche matin, ça s'arrête là. Eh bien, la prédication, elle est pour vous. Parce que, en vérité, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a 10 réponses. Quand est-ce que notre âme a besoin d'être restaurée? C'est une question, c'est un débat que vous pourriez faire, d'ailleurs, avec la jeunesse. Quand est-ce que notre âme a besoin d'être restaurée? J'ai mis 10 réponses. Premièrement, si vous ne vous êtes pas encore occupé de votre éternité, je peux vous dire que votre âme a besoin d'être restaurée. Parce que moi, beaucoup de gens me disent « Ah, mais moi, vous savez, M. Gauche, je suis catholique. Mais moi, M. Gauche, je suis évangélique. » Mais est-ce que vous êtes converti? C'est quoi la conversion? Quand quelqu'un vous dit « Mais c'est quoi la conversion ?» Bon, c'est la preuve qu'il ne s'est pas trop penché sur le sujet. Mais quand quelqu'un ne s'est pas occupé de son éternité, laissez-moi vous dire qu'il a besoin d'avoir une âme restaurée. Deuxièmement, si vous n'avez pas cherché Dieu, si vous n'avez pas cherché le salut, si vous n'avez pas cherché le pardon, votre âme a besoin d'être restaurée. Si vous n'êtes pas passé par la repentance et si vous n'êtes pas passé par la conversion, vous êtes concerné. C'est la chose la plus importante sur la terre. Pour certains, c'est quoi la plus importante? C'est d'acheter votre maison? C'est le mariage? C'est quoi la chose la plus importante pour vous? D'avoir plein d'enfants? Qu'est-ce que c'est? Mais la chose la plus importante, c'est de passer par la repentance et par la conversion. Si vous n'avez plus de communion avec Dieu, ça peut arriver. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, mais moi, je ne lis plus ma Bible. J'ai même entendu un pasteur dire, je ne lis plus ma Bible. Est-ce que cet homme avait besoin d'être restauré, tout pasteur qu'il était? Eh bien, oui. Quand quelqu'un n'a plus de communion, il a besoin d'être restauré. Quelqu'un me disait, moi je ne lis ma Bible que le dimanche. Que le dimanche. Mais c'était quelqu'un d'honnête, vous voyez. Mais l'honnêteté, c'est pas le critère de la communion avec Dieu. Je ne lis ma Bible que le dimanche. Est-ce que l'âme de cette personne avait besoin d'être restaurée? Bien sûr que oui. Si votre relation avec Dieu est comme celle que vous avez avec certains voisins, bonjour, bonsoir, au revoir, il fait beau, laissez-moi vous dire que votre âme a besoin d'être restaurée. Si la prière est un fardeau, la prière c'est un sujet inépuisable, mais si la prière est un fardeau, si la prière c'est pénible, avant je priais, avant j'aimais prier, avant j'aimais aller à la réunion de prière, maintenant je ne prie pas, ce n'est pas facile, et bien votre âme a besoin d'être restaurée. Écoutez bien, si la prière est devenue un fardeau, demandez à Dieu qui restaure votre âme. Si je prie et que je pense à autre chose, est-ce que ça peut arriver, ça? Bon, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut s'égarer dans la prière? Oui, ça peut arriver. Mais d'une manière générale, quand on doit prier pour les âmes. Je ne sais pas, on prie, on est avec les autres. Mais si quand vous priez, vous êtes tout le temps, vous vous égarez tout le temps, je crois que vous pouvez demander de l'aide au Seigneur pour être restauré. Si je prie 5 minutes et que j'ai l'impression d'avoir prié 1 heure, vous savez, bon, là je crois que c'est pareil. Déjà, ils prient, ils sont tout le temps avec la montre. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais si vous priez 5 minutes et que vous avez l'impression d'avoir prié 1/2 heure, votre âme a besoin d'être restaurée. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, si le temps que je dois donner à Dieu diminue de plus en plus. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai plus le temps de faire mon culte personnel. » Si Dieu nous demande de veiller sur notre âme tous les jours, c'est qu'on doit avoir du temps pour le faire. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, c'est que je fais quelque chose que Dieu ne me demande pas à la place. ou que je fais quelque chose en trop. Donc, c'est que mon âme a besoin d'être restaurée. Si le Dieu de la Bible, que j'appelle Seigneur, 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 quand je prie, ne gouverne plus ma vie, j'ai besoin d'être restauré. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a combien, Jésus l'a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et je crois que si on a besoin d'être restauré, si vous vous étiez retrouvé dans un de ces 10 exemples, eh bien, maintenant, prenez le temps de dire à Dieu, Seigneur, restaure mon âme. Alors j'ai noté quelques textes, je vais les lire rapidement, où on voit dans la Bible que notre âme peut être facilement brisée. L'âme brisée. Écoutez bien, une concordance, vous trouverez vite. L'âme souffrante, l'âme desséchée, comme on l'a lu dans le psaume 107, l'âme languissante, l'âme errante, l'âme pleine d'amertume, l'âme nonchalante, l'âme affamée, l'âme abattue, l'âme découragée, l'âme souffrante, l'âme altérée, l'âme dégoûtée. C'est Job qui disait « Mon âme est dégoûtée de la vie ». Vous voyez, tellement il était éprouvé. Est-ce que ça peut arriver? Eh bien oui, ça peut arriver. L'âme attachée à la poussière, l'âme dans la détresse, l'âme ébranlée. Et un autre a dit, mon âme est morte. Et un autre a dit, je crois que c'est David, mon âme pleure de chagrin. Et je n'ai pas terminé, on pourrait continuer. C'est pour vous dire que notre âme peut être énormément brisée par toutes sortes d'épreuves. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, nous pouvons abîmer notre âme. Vous voyez, le corps, on y fait attention, vite, vite, le docteur, vite, vite, un médicament, vite, vite, un pansement, la maison, c'est pareil, la voiture, c'est pareil. Mais nous ne comprenons pas que quand Dieu nous interpelle sur un sujet comme celui-ci, nous devons nous rappeler ce qui est dit dans Ésaïe 58, 12, Jésus est le réparateur des brèches. Parce que c'est ma conclusion, vous le comprenez bien, on ne va pas s'attarder que sur ce qui pourrait passer pour être négatif, mais votre âme, je viens de citer quelques qualificatifs. Quel qualificatif mettriez-vous à votre âme? Est-ce que vous pouvez dire, tiens, ce soir, mon âme, elle pleure de chagrin, mon âme, elle est errante, mon âme, elle est fatiguée, ou mon âme est paisible, mon âme est joyeuse? Est-ce que vous dire, mon âme, mais moi je ne cesse de bénir l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Enfin bon, je vous dis, si vous avez une concordance, on n'a pas fini, on n'aurait pas fini. Mais regardez avec moi ce texte dans Ésaïe 58. Je voudrais que vous compreniez que Dieu qui connaît votre âme, qui connaît notre cœur, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous comprenez bien. J'aime ces textes. Ésaïe 58, verset 12. Voyez, c'est des textes merveilleux qui nous montrent qu'il y a toujours une solution. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous voyez que même si ça va très très mal, parce que les anciennes ruines, là on n'est pas dans la petite fissure ou dans le petit crépi qui a sauté, on est dans les ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Vous voyez, Dieu connaît nos ruines, Dieu connaît nos échecs. Et c'est là qu'il faut dire, mais Seigneur, oui, tu es capable de me parler, de me montrer que ça ne va pas, mais tu t'appelles le réparateur des brèches. On n'utilise pas souvent ce qualificatif du Seigneur. On parle de Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, El Shaddai, etc. Mais n'oublions pas que Jésus s'appelle le réparateur des brèches. Et que si vous avez des ruines, et des anciennes ruines, c'est-à-dire que si votre vie est ruinée depuis longtemps, eh bien Dieu peut vous aider. Est-ce que vous comptez sur l'aide du Seigneur? Eh bien voilà, c'est pour ça que Seigneur, tu vois ma vie, elle ressemble à une maison ruinée, mais oh, que ça fait plaisir de voir que même les anciennes ruines, eh bien tu es capable, Seigneur, de les bénir. Ésaïe 61, verset 4, on n'est pas loin, hein? Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Moi, c'est un mot qui me fait toujours réfléchir quand je lis dans la Bible les affaires qui sont dévastées depuis longtemps. Vous aimez ça? Depuis longtemps. Ça fait longtemps que cette personne est rétrograde. Est-ce que Dieu peut la restaurer? Vous connaissez les rétrogrades, il y a 10 ans qu'ils ont rétrogradé, il y a 20 ans qu'ils ont rétrogradé. Eh bien, ce verset, ça ne peut que vous encourager. Vous, une ruine, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais Dieu, il répare les anciennes ruines, ce qui est dévasté depuis longtemps. Il le sait, Seigneur. Le Seigneur qui a des gens, ça fait longtemps, très longtemps, que ça va mal. Mais il est capable de restaurer. Il sait si un couple est en danger, si un couple est à deux doigts de divorcer. Est-ce qu'il y a des couples chrétiens qui vont mal? Ben oui. Est-ce que Dieu est capable de les restaurer? Ben bien sûr. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut prier. C'est pour ça qu'à la prière, il ne faut pas arriver juste à la fin. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Mais mes frères et sœurs, comment Dieu restaure? Il restaure avec notre participation. Dieu ne restaure pas par magie. Dieu restaure avec la participation des chrétiens. Quand Dieu dit, vous voyez le psaume 23, il restaure mon âme. Oui, il restaure mon âme, mais je participe. Voilà, il a payé, il a tout accompli. On le sait, le prix que Dieu a payé. Et son âme aussi a été triste jusqu'à la mort. C'est pas écrit de Jésus, il ne l'a pas dit Jésus à Gethsémané, que son âme était triste jusqu'à la mort. C'est pas de la poésie ça. C'était la vérité. Il a failli mourir à Gethsémané. Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on ne peut pas travailler pour les autres. Jésus était triste, ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Il y a des gens, dès qu'ils ont un peu de tristesse, « Ah non, je ne prie plus, je suis triste. » Bon, tous, on a des moments de tristesse. Si moi, je venais prêcher que quand je suis bien, voilà, et ce que je veux vous dire, c'est que Jésus a tout accompli, même si son âme était triste. Et que même si nous avons des hauts et des bas, nous pouvons faire en sorte que notre âme soit efficace pour l'œuvre de Dieu. C'est important ça. Il est dit, il répare toutes les brèches, tous les affligés. Et c'est ça qui doit nous donner du courage pour la prière. Mes frères et sœurs, la restauration, il restaure mon âme. Ça passe pas par la magie, ça passe par la collaboration. Il faut le demander. Le psaume 107, on termine. Le psaume 107, regardez, on a lu le verset 4, « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, ils souffraient de la faim, leur âme était languissante. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collaboré pour en sortir. On ne sort pas de la détresse comme ça, par magie. Psaume 107, verset 5. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Verset 6. Vous le lirez, le psaume 107. Dans leur détresse, qu'est-ce qui se passa? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Leur âme était angoissée et Dieu les a délivrés de leur angoisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié, ils erraient. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien, il faut invoquer sa grâce. Ah, moi, je ne prie plus. Pourtant, c'est écrit. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ah non, moi je souffre, je ne prie plus. Non, c'est fini, j'en ai marre, je ne prie plus. On entend des choses et ne nous étonnons pas que les gens soient malades, soient abattus, soient affligés. Si vous voulez être restauré, il faut le lui demander. Seigneur, restaure mon âme. Mon âme est affligée, mon âme est triste, je te demande de me fortifier. Dieu a besoin de votre prière. Est-ce que vous le savez ça, que Dieu a besoin de votre prière? Il y a des gens, oh Dieu est assez grand, il sait ce dont j'ai besoin avant que je le lui demande, donc je ne prie pas. Ça, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en tous les cas, ce n'est pas ça que ça veut dire. Tous les jours de votre vie, vous savez, Jésus a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est debout. Ce soir, nous sommes debout par la grâce de Dieu. C'est une grâce d'être debout. C'est une grâce d'être là, dans sa maison, d'écouter la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Et il y a une loi qui fait que si nous veillons attentivement sur notre âme tous les jours de notre vie, eh bien, ces choses-là ne sortiront pas de notre cœur. Et vraiment, je vous encourage à lire le psaume 107. Pas le lire, à le méditer. Comme pour les chants, il y a la mélodie, il y a la poésie dans les cantiques, dans les psaumes. Les psaumes, c'est des cantiques, les psaumes. Mais ne lisez pas le psaume 107 pour dire « Ouh là, il est long le psaume 107, 43 versets. » Mais méditez le psaume 43 et vous verrez combien les hommes de la détresse, de l'angoisse, sont passés à des temps de restauration. Alléluia. On va fermer les yeux quelques instants et demander à Dieu de nous aider. Dieu sait où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette prédication. Vous êtes venu, voilà, peut-être que c'est la parole que vous aviez besoin d'entendre ce soir. Je vais veiller sur mon âme. Il est hors de question que ces bénédictions, ces promesses et commandements sortent de mon cœur. Il faut qu'elles y restent. Seigneur Jésus, oui, nous le croyons, que notre âme ne nous appartient pas. D'ailleurs, tout appartient, dans les cieux et sur la terre. Tout appartient. Alors Seigneur, nous voulons vraiment que notre âme t'appartienne, que notre vie t'appartienne. Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie que de t'appartenir. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir nos vies entre tes mains. Et quel que soit le temps qu'il nous reste à vivre, Seigneur, mais qu'importe, ce que nous voulons, c'est être prêts pour le jour où tu vas redemander notre âme. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que nos âmes soient fortifiées, c'est que nos âmes soient en bonne santé. Oui, comme nous avons le souci de soigner nos corps, donne-nous, Seigneur, toujours cette intelligence de soigner notre âme. Tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu? Tu savais, Seigneur, qui ce soir serait là? Et tu savais à qui parler, comment parler? Donne-nous cette joie, Seigneur, d'avoir non pas une âme angoissée, errante, abattue, malade. Donne-nous la joie d'avoir des âmes qui te bénissent, des âmes fortifiées, des âmes renouvelées. Oui, que nous puissions, nous aussi, chanter le psaume 23, que tu restaures notre âme, parce que ta parole est une bénédiction tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, merci pour ta parole, que ton nom soit béni. Amen.